Vous écoutez France Culture.
Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, déchets, le retour à la Terre. Tandis que la couche d'humus se dégrade inexorablement dans nos campagnes, les projets d'incinérateurs continuent à fleurir. On n'en a jamais autant vu, paraît-il, que ces derniers mois. Alors, départ ce matin pour un des bastions de la résistance aux incinérateurs et de la proposition d'alternative, la Vendée, avec Montaigu et Saint-Philbert de Bouenne.
Se battre contre l'incinération, c'est une chose. Il faut proposer une alternative, parce que sinon, on a beau jeu de vous traiter de nimbyste, Christophe Hermoué. Donc en fait, toute une partie du travail de la FEV, ça a consisté à développer des arguments contre et des arguments pour.
Voilà, oui. En fait, il y a eu un premier choc à Grosbreuil. Hein. Grosbreuil, c'est la commune en Vendée où le syndicat départemental Trivalis avait décidé d'installer son incinérateur. Et la population s'est soulevée très très rapidement hein, dans la semaine qui a suivi l'annonce. C'était un jeudi soir, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et très rapidement, les gens ont assez violemment réagi. Il y a eu le maire a été bloqué dans sa voiture, etc. Donc les choses étaient très conflictuelles. Et on a bien senti qu'il y avait une carte à jouer, qu'il fallait absolument proposer autre chose. Et finalement, ça a marché, puisque Philippe Devilliers, qui est le président du Conseil général de la Vendée, a annoncé qu'il faisait marche arrière, qu'il mettait en place une procédure de révision du plan. Et c'est là où nous avons joué la carte de la proposition, même si on nous a refusé l'accès de la commission consultative de révision, hein, puisque nous n'étions pas une association de agréée protection de l'environnement. Alors là, nous avons fait ce qu'on a appelé une contribution, c'est-à-dire que sur les 20 associations qui composaient la FEV, eh bien, on s'est mis en réflexion, en mouvement, et on a rédigé un livret d'une cinquantaine de pages avec toutes nos alternatives. Et on a contesté tout d'abord le principe de l'incinération, le principe de l'enfouissement massif en décharge, hein, en particulier des mâchères, des réfiums, et on a sorti notre catalogue de contre-propositions. Hein.
Alors, la contestation d'abord, peut-être. Sur quels arguments ?
La contestation de l'incinération, pour nous, les choses étaient très claires. L'incinération est un procédé dangereux, particulièrement dangereux, dont ses promoteurs ne maîtrisent même pas les données. Hein, on est parti de choses très simples. Lorsque les scientifiques nous disent qu'il y a possiblement 2000 molécules qui sortent des cheminées des incinérateurs et que l'on n'en connaît que 200, hein, il y a un véritable souci. Hein.
Mais c'est parce qu'il y a des filtres.
Alors des filtres. Mais parlons des mâchoires. Et les filtres, est-ce que ça fonctionne ? On sait très bien que ce sont des usines, des établissements très techniques, très pointus, et que sur le temps, la capacité des exploitants à maintenir leurs installations aux normes et en bon état est très aléatoire. On a bien vu, hein, on avait recensé environ 50 incinérateurs en 2004 qui étaient hors normes, qui ne respectaient pas le 0,1 nanogramme par mètre cube d'air. Hein. Alors après, c'est pareil. Comment on contrôle ? Est-ce que ces contrôles, les contrôles de dioxine devraient être faits sur des périodes assez longues, d'environ 15 jours, hein, on le fait sur des laps de temps de 3 à 6 heures, on s'aperçoit que si on le fait sur la durée, sur une quinzaine de jours, on obtient, les chiffres sont multipliés par 50, par 50.
Parce que vous avez fait ce type de contre-expertise ?
Non, nous n'avions pas d'incinérateur et nous en félicitons. Hein, et nous continuerons toujours à faire tout ce que nous pouvons pour qu'il n'y en ait jamais en Vendée. Et nous ne baissons pas la garde. Car nous savons que dans les propositions, les solutions qui nous ont été, qui vont se mettre en place, qui ont été votées à la fin septembre par le Conseil général de la Vendée, il y a toujours de véritables risques. Hein, et en particulier par l'incinération du secteur privé. Hein, les incinérateurs de farine animale qui sont en prévision à Challans et à Bonnet, donc dans le nord et dans le sud Vendée, peuvent potentiellement, compte tenu des stocks de farine qui restent à brûler, se transformer un jour en incinérateur de déchets ménagers ou de déchets spéciaux. On sait que d'un point de vue technique au niveau des fours, c'est tout à fait possible et on a les plus vives craintes là-dessus. Hein, surtout quand on nous propose du traitement mécanobiologique où on va ressortir tous les plastiques. On sait très bien que le plastique est une matière particulièrement sollicitée par les incinérateurs puisqu'elle est hautement combustible.
Mais tout de même, Christophe Hermouet, je voudrais savoir de quels moyens, de quels outils vous disposez pour faire des contre-expertises. Est-ce qu'il y a un équivalent de la CRIRAD ?
Non, il n'y a pas d'équivalent, et c'est bien regrettable. Hein. Il y a le Centre national d'information sur les déchets au niveau national qui regroupe un certain nombre d'associations, mais c'est vrai qu'on se retrouve un peu isolé et à glaner par-ci, par-là, l'information. Hein. Bon, c'est vrai que nous, en Vendée, on a eu de la chance, le projet est arrivé à un moment où beaucoup d'alarmes commençaient à clignoter. Hein. On arrive après l'affaire de Gilly-sur-Isère, l'instruction qui les plaintes de 180 habitants. On arrive à un moment où beaucoup d'incinérateurs sont défaillants et que le ministère de l'écologie commence à réagir. On arrive à un moment où un certain nombre d'élus réagissent aussi. Hein.
À Saint-Philbert-de-Bouesnes, petite commune de Vendée, la coutume veut depuis 4 ans que la population se retrouve tous les samedis matins sur la place du marché et non, sur la plateforme de compostage.
Oui, ben, je vais faire peser mon panier, comme on dit.
On appelle ça un panier ?
Oui, j'appelle ça mon panier, moi, toujours.
Non, c'est le biobag.
Ouais, mais moi, c'est mon panier. Donc, on prend le poids, qui est de 11 kilos, là, pour une fois, pour une journée. Des fois, j'arrive à 16.
Cette poubelle que vous appelez votre panier, c'est de combien de jours ?
Là, ça va faire 15 jours, là, parce que je suis pas. Mais l'été, on est tous les jours à peu près, vu ce qu'on avait comme légumes, et puis en plus, c'est avec la chaleur et tout, donc ça fait ça de ce côté-là. Il y a plein de pucerons, il y a plein de. Donc on est obligé d'y venir un peu plus souvent.
Et qu'est-ce que c'est que cette carte que vous avez à la main ? Vous allez écrire le poids dessus ?
Non, c'est à chaque fois que vous venez, il vous donne un tampon. Et mettons tous les 6 mois, comment dire, 3 mois, 6 mois, on vient chercher du compost.
Une fois que la carte est pleine, voilà. Vous avez droit à du compost.
Non, même si elle n'est pas pleine, si mettons ils vont décider que pour avoir un compost complet, ben, s'il nous faut mettons 4 points, ben, ils nous prennent 4 points. Et si on en a 8, et ben, on peut avoir 2, vous comprenez ? Voilà. Donc après, on se dirige vers le tas et c'est nous-mêmes qui faisons le
compostage.
Le compostage. Bon, il y a des gens qui nous surveillent, mais c'est à nous normalement de le faire.
Ah, vous voyez.
Alors là, c'est vraiment des pluches de légumes.
Oui, c'est que des pluches de légumes, il n'y a rien d'autre. Hein. Tout ce qui est légumes, tout ce que la salade, tout ce qu'il faut pour comme légumes. Et on dépose là et après on le recouvre avec du terreau.
Et pas de café, de.
Bah, j'en ai pas alors, donc.
Mais vous pourriez.
Oui, on peut. Oui, même les huîtres, si vous avez des huîtres, vous les mettez de côté et on les met dans un autre tas là-bas. Après, qu'ils sont.
Il y a un tas pour les huîtres.
Oui. Alors, comme c'est la région en plus. Donc, vous avez un tas là-bas, vous les mettez là-bas et puis après, eux, ils les broient et ils les mélangent au compost.
Et là, donc, dans la brouette, vous prenez deux ou trois fourchées de compost. Ce qui fait qu'en fait, les. les légumes, enfin les déchets frais sont systématiquement recouverts. En fait, on ne voit que du compost, toujours.
Et après, bon, quand vous avez fini, ben, vous laissez la fourche. Il y a un collègue qui arrive, il prend ma place. Et moi, je vais aller laver ma poubelle plus loin là-bas.
Ah, il y a aussi de quoi laver la poubelle.
De quoi laver la poubelle, voilà. Comme ça, quand vous repartez chez vous, ben, elle est à peu près propre. Et vous finissez de la nettoyer à la maison.
Ça fait longtemps que vous faites ce système ?
Depuis le début.
Et qu'est-ce que vous en pensez alors ?
Bon, c'est super.
Pourquoi ?
Bah, disons que ça nous évite les poubelles, d'ailleurs chez nous, l'odeur. Et en plus, ça permet aussi, quand on vient, de rencontrer des gens, puis de discuter, qu'on ne voit jamais la semaine parce qu'on travaille. Donc des gens comme Gustave, mais on discute entre nous, puis on rigole. Ça fait un moment convivial aussi en même temps.
Qui n'existait pas avant ?
Bah, si, ça existe dans les sociétés de sport, des trucs comme ça, mais bon, c'est autre chose. C'est vrai, on arrive, on discute, on rigole, il y a des vannes qui sortent.
Mais là, comme on est là aujourd'hui, il n'y en aura pas.
Non. Voilà. Un peu intimidé, c'est pour ça.
Eh oui. Est-ce que tout le monde vient sur la commune ou bien est-ce que c'est au choix ?
Alors, la participation, elle est à peu près de 50% des ménages de l'agglomération, hein, de la partie qui est un peu plus de la moitié de la population. Nous avons une population de 2700 habitants, c'est à peu près 1500 à 1600 habitants, donc à peu près 300 ménages qui viennent. 50% donc utilisent le site. Et on a fait aussi une petite enquête auprès du reste de la population. 30% continuent le compostage individuel. Ce qui fait qu'au total, 80% des ménages ne mettent pas des déchets, des biodéchets, dans leurs poubelles.
Et qu'est-ce qui fait qu'on choisit de continuer le compostage individuel, d'après vous ? Vous avez fait une enquête un peu sur les motivations ou...
Alors, le compostage individuel est complémentaire au compostage collectif. Les deux sont importants parce qu'il y a des gens qui ont leur jardin, qui ont l'habitude d'utiliser leurs biodéchets chez eux, ils font leur petit compost. Pourquoi pas, au contraire, parce que ça évite des déplacements, ils font ça, ils gèrent ça comme ça avec leur jardin. Donc, on a favorisé aussi donc, cette démarche, mais on a fait une enquête, c'est pour ça qu'on a su précisément que 30% continuent à le faire. Quoi. Mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'en développant le compostage collectif, ça permettait à une partie de la population qui n'a pas de jardin ou qui n'a pas envie de gérer ça de cette manière, de pouvoir l'apporter ici et de faire un compost de qualité. Et on a fait des analyses, c'est vraiment un compost qu'on n'arrive pas à faire dans son jardin. Quoi, hein. Voilà. Donc, de cette manière, on arrive à gérer les biodéchets d'une façon importante.
Est-ce que vous avez le sentiment que ça a dû changer en profondeur les habitudes des habitants Clément Sauvager ?
Oui, ça a vraiment changé en profondeur les habitudes des gens. Ce qui fait que, par
Mais
exemple...
Mais de quelle manière ? Qu'est-ce qu'il a fallu faire ?
Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour...
Qu'est-ce qu'il a fallu changer comme habitude ?
Eh bien, il a fallu prendre conscience que c'était important qu'on gère nos déchets différemment. Nous avons eu un projet, entre autres, de centre d'enfouissement technique sur notre commune. Nous avons une commission environnement qui travaille depuis longtemps les problèmes d'environnement sur la commune, une commission extra-municipale. Et quand nous avons eu ce projet de centre d'enfouissement technique qui nous arrivait, ça nous a impressionnés. Nous avions la référence d'un centre pas très loin qui a été rempli en 6 ans alors que c'était prévu en 30 ans. On s'est dit, on ne peut pas accepter ça. Et nous apportons notre contribution pour gérer une partie des déchets. Et les biodéchets, c'est des déchets que l'on produit, qui viennent de la terre, qui n'ont rien à faire dans un CET ou dans un incinérateur. On peut les gérer localement en impliquant la population. Et c'est ce que nous avons fait. Et en fait, nous avons fait de l'information et nous avons essayé de mettre en œuvre cette démarche que nous n'avons pas inventée, qui vient de Belgique en fait. Et que ça se passait dans un quartier de ville, on l'a adapté chez nous. Et c'est vrai que la population, très vite, a été intéressée, s'y impliquée. Nous avons fait des démarches. Nous avons dû l'imposer un peu au syndicat qui a compétence pour le traitement des déchets. Il fallait une volonté municipale. Nous l'avions. Et ça s'est réalisé.
Parce que le syndicat souhaitait poursuivre son projet de CET, de centre d'enfouissement technique ?
Les élus, globalement, n'ont pas toujours la volonté d'innover. On a tendance à confier à des grands groupes, la gestion, le traitement, on se dégage un petit peu. Et c'est pour ça qu'il a fallu qu'on insiste fort, qu'on l'impose un petit peu, que cette démarche puisse être expérimentée sur une commune.
Mais donc tout de même, c'est possible à l'échelon d'une commune d'imposer sa volonté dans ces questions-là.
Voilà. S'il y a une détermination des élus, mais aussi de la population, après une démarche, il y a des associations qui militent beaucoup aussi. Donc on a associé tout ça. Hein. Et ça a été possible d'en faire des réunions de quartier auprès de la population pour leur présenter cette démarche. Ça a été l'occasion aussi de faire de l'information concrètement comment ça pouvait fonctionner, de distribuer des biobacs. Tout ça. Et la population a adhéré. Nous avons eu 60% des gens de la commune qui ont participé à ces réunions par quartier. Donc ils se sont très vite impliqués et ne voudraient surtout pas faire marche arrière aujourd'hui.
En fait, quand on arrive ici, on a le sentiment que c'est un système extrêmement simple.
Voilà, c'est très simple. C'est très très simple. Il s'agit d'avoir une poubelle de plus dans sa maison. Alors nous avons un bio-seau qu'on met en dessous l'évier et un bio-bac un peu plus grand que vous avez pu apercevoir qu'on met à l'extérieur qui permet d'attendre quelquefois quelques jours de plus. Donc il s'agit de trier à la maison. Les enfants sont très heureux de le faire. L'école favorise aussi cette réflexion. Et il y a toute une démarche pédagogique. Donc les parents suivent hein, tout ça. Et après, il s'agit d'apporter son biobac, c'est ouvert 3 fois par semaine, d'apporter sur le site, de mélanger ça avec des déchets verts, et on en fait un bon compost que l'on
retrouve. Des déchets verts qui viennent de la commune ?
Alors, c'est des déchets verts des particuliers et de la commune, des espaces de la commune. Tout ça, c'est déposé sur un autre lieu, c'est broyé, et on apporte au fur et à mesure sur le site ce qu'il y a besoin.
Pourquoi est-ce qu'il faut peser ?
Alors nous pesons parce que nous avons été suivis par l'ADEME, le Conseil Général, dans la mise en place de cette démarche. Ça a intéressé donc l'ADEME et elle voulait qu'il y ait un suivi, qu'on ait une connaissance du gisement et qu'on ait un suivi, savoir si la population allait se maintenir dans cette démarche ou pas. Ils nous ont même dit au départ, vous savez, attention, c'est comme un soufflet, ça peut monter très haut, mais ça peut retomber très vite. En fait, on leur montre que le soufflet ne baisse pas, ne tombe pas.
Ça reste chaud.
Ça reste chaud, voilà, c'est ça, complètement. Et la population est très impliquée. Hein. Les nouveaux arrivants s'intéressent très vite à venir. Ils disent, c'est comme autrefois, nos parents enferment, etc. On a tous plus ou moins des repères que ça se faisait comme ça. On mettait ça sur le tas de fumier. Eh bien là, ces fermenticides ont un intérêt très important pour la vie organique de la terre, hein, pour... faire pousser des végétaux, la vie microbienne, les vers de terre, etc. Donc on n'a pas à négliger cette part organique, à la traiter autrement.
Alors une chose qui frappe quand même, c'est qu'on n'a pas du tout l'impression d'arriver dans une décharge.
Ah, ce n'est surtout pas une décharge. Chacun fait sa petite démarche proprement, est content d'apporter ses déchets. Et lorsqu'on remet sur nos biodéchets qui quelquefois ont pu évoluer parce que quelquefois on attend plusieurs jours, eh bien l'odeur disparaît immédiatement lorsqu'il y a des déchets verts qui sont mis dessus. Et ce qui est important, c'est que d'un déchet, on en retrouve un compost de qualité qu'on prend à la main, qui a bonne odeur. Voilà, c'est un terreau.
C'est vrai, il est très beau, il est très brun, humide.
Alors voilà, c'est un compost qui est fini, celui-ci, parce qu'il y a déjà 15 jours, nous avons fait une distribution pour avant l'hiver, hein, pour faire l'élimination du tas. Voilà comment se présente.
Il est beau,
hein, il est fin. Ce n'est plus du tout ce que l'on met au départ. Hein, vous voyez, il a bien évolué, bien transformé. C'est l'avantage de ce site, c'est que ça permet d'avoir un contrôle de la température, de l'humidité. On le bâche si nécessaire quand il y a des périodes de pluie pour qu'il fasse une bonne évolution.
Mais vous dites on, qui s'occupe de ça?
Alors, le syndicat mixte, qui a compétence des déchets, avait prévu développer ce système sur l'ensemble de son territoire, dans toutes les communes. Et donc, a été embauchée une personne spécialisée, qu'on appelle le maître composteur, qui suit ça régulièrement, le tas, avec l'équipe des relais de quartier.
Ça signifie que ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Il faut vraiment savoir. Maître composteur, c'est impressionnant, non ?
Voilà, c'est un terme que nous avons un peu imaginé localement et on lui a donné cette qualification, mais elle convient tout à fait parce qu'effectivement, il a tout à fait la compétence pour l'assumer. Et également, il est pédagogue auprès de la population, des gens qui viennent, même aussi pour conseiller le compostage individuel. Voilà, c'est toute une démarche auprès du compost.
Et la distribution, donc, vous disiez, se fait à intervalles réguliers, mais aussi en fonction des saisons, puisque là, vous venez de nous dire, on a distribué du terreau avant l'hiver. C'est le terreau de préparation des sols pour l'hiver.
Voilà. Les sols nécessitent donc de la matière organique. Nous produisons du compost. Il est fini au bout de 5 mois, par là, 5-6 mois. Donc on fait une distribution 3 fois par an pour pas trop stocker. Et puis que les gens puissent apporter au meilleur moment de leur utilisation dans leur jardin. Donc à l'automne, on peut en faire un épandage pour certaines plantes. Mais aussi on prépare ces terrains avant l'hiver, hein, on dépose. Mais la grosse distribution se fait au printemps, parce que pour la mise en place des légumes, quoi.
Vous avez parlé de la qualité des déchets, Clément Sauvager, parce que il y a des qualités différentes.
Alors dans les composts, effectivement, c'est suivi pour que on évite qu'il y ait des mauvaises herbes, mais aussi une mauvaise fermentation. Le tas, il faut qu'il chauffe. Donc l'andain que vous voyez chauffe à 70 degrés, vous voyez il y a de la fumée hein, qui remonte, de la vapeur, c'est une température nécessaire pour tuer une partie de la vie microbienne qui n'est pas saine, qui pourrait apparaître dans certains légumes avariés, voilà. Donc on est sûr de la qualité du produit. Nous faisons des analyses systématiquement avant la distribution et nous avons constaté que la qualité de notre produit rentre dans les normes qui sont imposées, bien en dessous des normes minimum qui sont prévues.
Alors, vous le disiez, enfin nous le disions, être contre l'incinération n'est pas suffisant si on ne propose pas des alternatives, des voies de sortie. Christophe Hermouet, il y a celle de Saint-Philbert-de-Bouëne qu'on a vue, qui est une initiative qui marche, qui est parfaitement citoyenne, simple, efficace. Reste tout de même un pourcentage de déchets, des déchets ultimes, dont on ne sait toujours pas quoi faire.
Tout à fait. Le but, hein, c'est de prévenir le déchet et de réduire. Hein, c'est la loi qui le dit. La loi de 1975, qui a été reprise, encore modifiée en juillet 2003, et qui le pose dans le Code de l'environnement, à l'article 541. On doit prévenir la production de déchets et la nocivité des déchets. Et la démarche intellectuelle des administrations et des personnes qui mettent en place les plans départementaux d'élimination des déchets doit véritablement être guidée par ces principes. Et à y regarder de près, elle ne l'est pas. Hein. On gère au quotidien, à la petite semaine, les choses en essayant, en regardant, en ayant les yeux rivés sur sa capacité d'enfouissement et comment on va faire en sorte pour que ça ne coûte pas trop cher et que le citoyen ne crie pas trop fort. Bon, et ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Hein. Le plan départemental qui rentre dans le principe de planification, hein, qui est posé dans le droit européen, on doit planifier la gestion des déchets. Eh bien, c'est précisément un outil pour prévenir la production de déchets. Et là, ben, dans notre plan, nous, en 96 et en 2001, il n'y avait rien, pas une ligne. Alors, il y a des choses simples. On s'est aperçu que sur tout le département, hein, rien que les prospectus en boîte aux lettres, ça faisait grosso modo l'équivalent d'un casier de CET de 5000 m² au sol. Plusieurs solutions possibles. D'abord, la distribution en porte-à-porte des autocollants que l'on peut apposer sur sa boîte aux lettres. Ben, il le faut, parce qu'on voit bien comment ça va se passer. Hein. On va envoyer des autocollants dans toutes les boîtes aux lettres, justement avec le magazine du Conseil Général, et puis les gens vont précisément le jeter à la poubelle. Il faut expliquer. Il faut expliquer.
Mais vous semblez dire que finalement, si les habitants refusaient ces papiers qui arrivent chez eux, ça serait possible d'endiguer le flot ?
Eh bien, je pense que si nos citoyens, si les consommateurs ne se prennent pas en main, ils subiront toujours. Et c'est aux populations, c'est aux habitants mais de réagir. Si, je connais en Vendée des gens qui retournent mettre dans les boîtes aux lettres de la poste les prospectus qu'ils ont reçus en considérant que c'est une véritable pollution, qu'ils n'ont rien demandé et qu'ils n'ont pas à subir cette invasion publicitaire. C'est catastrophique. C'est un gaspillage sans nom.
Alors, continuons-nous aussi, Christophe Hermouet. Après les prospectus, comment est-ce qu'on continue la réduction des déchets à la source ?
Eh bien, en sensibilisant le consommateur. Nous avons, dans nos réunions, dans plusieurs de nos réunions, parce que nous passons un peu dans toutes les petites communes, là où il y a des difficultés, nous avons mis en place un sketch avec deux caddies. Le caddie d'un consommateur qui ferait attention et d'un consommateur qui ne fait pas attention. Et les résultats sont éloquents et les gens comprennent très vite. C'est ça la sensibilisation. Alors on peut faire ça dans les lycées, on peut faire ça dans les maisons de quartier. Voilà encore tout un travail que les ambassadeurs du tri, enfin qu'on appelle les ambassadeurs du tri, mais nous on pourrait dire que ce sont même des brigades vertes, enfin des agents de sensibilisation, eh bien, pourraient faire. Et on peut embaucher, on a des moyens financiers que l'on pourrait mettre à disposition, hein, plutôt que s'engager dans des projets comme le traitement mécanobiologique, où on met énormément d'argent pour des résultats qui sont tout à fait hypothétiques. Donc je préférerais vraiment que l'argent soit utilisé à meilleur escient et que le travail local de proximité porte son fruit, porte ses fruits. C'est de l'écologie de proximité qu'il faut faire ici.
Alors vous venez d'évoquer le traitement mécanobiologique.
Oui. Alors ça, c'est la très mauvaise nouvelle qu'on a eue dans le plan. Hein, parce que nous, ce qu'on avait proposé, eh bien, c'était la multiplication des plateformes de compostage communal comme à Saint-Philbert-de-Poëne. Ça marche tellement bien qu'on se demande pourquoi on irait faire compliqué alors qu'on a des choses très simples à mettre en place et peu onéreuses. Alors le TMB, pourquoi c'est une mauvaise chose, hein, traitement mécano-biologique. Alors,
c'est biologique déjà.
Oui, moi j'aurais été plus vers le TMP, traitement mécano-polluant en réalité. Moi je n'ai toujours pas bien compris la finalité de l'exercice. Nous avons des citoyens intelligents qui sont capables de trier à la source chez eux. Alors pourquoi ce citoyen, que l'on brosse habituellement dans le sens du poil, ne serait pas capable de trier tout seul de manière optimale à la source et qu'il faudrait une super machine très onéreuse, très sophistiqué, un prototype, on nous dit. Alors, nous, on ne comprend pas le mécanisme. Je ne comprends pas la philosophie de cette machine. Alors, en quoi ça consiste ? On prend ce qu'on appelle les ordures ménagères grises. Grosso modo, c'est ce qui est dans le bac, c'est tout ce que vous n'avez pas trié. On le met sur un tapis, et puis on essaye de récupérer la fameuse portion de matière fermentée cible pour en faire, au terme d'un traitement assez sophistiqué, un compost qui aura vocation à être épandu sur les terres agricoles. Alors, c'est sur le papier assez séduisant, sauf qu'en pratique, que c'est du n'importe quoi. Pourquoi ? D'abord, parce que lorsqu'on retire ces matières fermentées cibles, elles auront été pour la plupart souillées par d'autres matières chimiques potentiellement dangereuses. Hein. Faut pas se leurrer, les conteneurs gris de poubelle, c'est pas merveilleux. Hein. On va retrouver des produits chimiques divers et variés, des médicaments, des piles, donc autant de substances dangereuses contenant des matières dangereuses, des métaux lourds, etc., qui vont souiller les matières fermentées cibles. Alors, on est prié de croire que cette machine va tout transformer. Non, on va avoir en réalité une matière fermentée cible polluée et on va faire venir des déchetteries, des déchets verts, hein, donc de la pelouse, du broyat de végétation, etc., que l'on va mélanger à cette substance particulièrement polluée. Et en réalité, je pense qu'on va faire une dilution de matière polluée dans une matière noble et saine qui aurait parfaitement pu être utilisée à bon escient pour faire du bon compost de très bonne qualité. Et après, on veut nous faire croire qu'on va répandre ça sur les terres agricoles. Alors, à mon avis, On nous parle de normes qui vont être scrupuleusement respectées. On se demande d'ailleurs comment on va pouvoir les respecter puisque c'est un prototype et qu'on n'a jamais fait l'essai. Deuxièmement, ce qui va vraisemblablement se passer, c'est que le produit ne respectera pas les normes minimales et surtout que les agriculteurs qui auront un peu de réflexion vont sérieusement s'interroger sur la qualité des produits qu'on leur donne. Je pense qu'on va même leur donner. Hein, ça, ce sera tellement de piètre qualité qu'on ne pourra même pas en faire autre chose. Et si personne n'en veut, eh bien, où est-ce que ces matières vont se retrouver? Elles vont naturellement avoir vocation à aller dans les gros CET qu'on nous a concoctés. Hein, donc,
centre d'enfouissement technique.
Voilà. Non, même plus. Centre CESDU, hein, centre d'enfouissement et de stockage de déchets ultimes. Donc, on va aller stocker, n'est-ce pas, cette matière qu'on aura délibérément polluée. Alors qu'un tri optimum chez le citoyen aurait été nettement de meilleure qualité. Quand on voit à Saint-Philbert-de-Boigne que plus de 80% de la population très rapidement a totalement adhéré, mais moi j'ai dit, mais pourquoi on ne fait pas du compostage de quartier? Alors au choix, on a des quartiers qui sont super bien, c'est la ville la plus importante hein, de Vendée, on a des quartiers qui sont organisés autour de maisons de quartier, on peut mettre une plateforme de compostage de quartier à côté, et tout ça va très bien fonctionner. Donc nous disons des choses simples, on est pour la simplicité, des plateformes de compostage comme à Saint-Philbert-de-Boëne, il y a plus de 280 communes en Vendée, ben, il en faut 280, hein. C'est tout simple, et ça coûterait nettement moins cher. On ne va pas rentrer dans des batailles de chiffres, mais ça coûterait tellement moins cher, et ce serait tellement plus simple, et ça ferait même revivre nos villages, nos communes qui parfois sont mortes, hein, et qui ont bien besoin de vie.
Est-ce qu'il y a des bacs spéciaux pour les coquilles d'huîtres et de moules, Jean-Pierre Morisseau?
Alors nous faisons, en plus de la collecte des déchets de cuisine, les collectes aussi de tous les coquillages et crustacés après consommation. C'est une collecte séparée puisqu'on ne peut pas les intégrer directement dans le compost, ils ne vont pas se désagréger à la même vitesse. Donc cette collecte séparée permet ensuite de les écraser et donc les transformer en une poudre grossière. Et cette poudre grossière est ajoutée après dans le tas de compost, et ça l'enrichit en calcium. Et puis ici, ben, nous sommes près de la côte, donc il y a une collecte importante de ces... Enfin, on ne peut pas dire des déchets, d'ailleurs, de ces coquillages et crustacés. Puis l'année dernière, par exemple, nous avons collecté 4 tonnes comme, au total de ces coquillages.
Alors, on a parlé beaucoup de déchets de cuisine, il y a aussi des déchets de viande.
Alors, les déchets de viande, effectivement, c'est un déchet organique, mais pour des raisons sanitaires, ce n'est pas accepté en collectif. On peut très bien le faire en individuel, par contre.
À l'entrée de la cour où nous nous trouvons, parce qu'en fait, c'est vraiment une petite cour avec ses tas de terre et ses fleurs, et puis on est entouré par des arbres. Et juste à l'entrée, il y a ces poubelles qu'on commence à voir dans pas mal de communes, qui sont les poubelles de tri, le verre, le plastique, etc. J'imagine que c'est volontairement que vous les avez installées ici, Clément Sauvager ?
Oui, nous sommes à la redevance sur notre syndicat, c'est-à-dire qu'on paye en fonction des déchets que nous produisons. Voilà, c'est toute une démarche nouvelle que nous aimerions bien se voir développer sur le territoire français.
Vous pouvez nous expliquer comment ça marche ?
Voilà, on paye en fonction des déchets que nous produisons, et en particulier la poubelle, on appelle ça la poubelle grise, la poubelle que nous avons chez soi. Elle est ramassée par un véhicule, c'était tous les 8 jours jusqu'à présent, mais du fait de notre démarche à la redevance et du compostage, elle a moins d'odeur, les gens trient davantage parce que nous payons en fonction du nombre de levées. Quand la poubelle est pleine, on la met, le camion passe, il y a une puce sur cette poubelle qui permet de l'enregistrer. Et c'est donc ce qui permet de payer en fonction du nombre de levées. Et ça, ça a amené une démarche auprès des gens de réduire leurs déchets, de mieux les trier. Et nous en sommes aujourd'hui à ce que la population met sa poubelle une fois par mois, au lieu de tous les 8 jours, comme ça pouvait se produire au départ. Et le résultat, c'est que notre syndicat, nous étions à 10 000 tonnes de déchets collectés par an. De ce fait, nous sommes descendus à 6 000 tonnes. Nous sommes à 129 kilos, je crois, par an et par habitant. Alors que la moyenne française doit être à 350 kilos, comme ça. Ça se traduit aussi par une réduction du coût. Hein. Voilà, c'est toute une démarche comme ça. Le camion passe tous les 15 jours. On a une dérogation parce que la législation, je crois, que oblige la collecte tous les 8 jours. Mais du fait qu'avec toute cette démarche, les gens mettent qu'une fois par mois, on a pu obtenir ça.
Et la partie recyclable, vous n'avez...
Alors, la partie recyclable, c'est bien développé. Alors, il y a deux façons de trier. Il y a le tri à la maison. Nous avons donc une poubelle de déchets qui vont être enfouis, incinérés, et une autre poubelle de tri, on appelle ça des sacs jaunes chez nous, où tout ce qui, les emballages qui peuvent être recyclés, les bouteilles, tous les conteneurs de produits alimentaires, mais certains plastiques, le papier, mais assez peu de papier là, en particulier aussi les boîtes de conserve, tout ça, c'est donc trié et ça va dans un circuit de recyclage en déchetterie, d'une part, et il y a aussi de l'apport volontaire pour une autre partie des déchets. Alors c'est le verre et les papiers. Papier, journaux, magazines. Voilà. Et c'est pour ça qu'ici, nous avons donc déposé nos conteneurs de dépôt volontaire auprès du site de compostage pour regrouper et pour qu'il y ait une démarche collective des gens sur le même site, quoi.
Qu'est-ce qui reste dans la poubelle tout venant, celle que les gens continuent à mettre maintenant une fois par mois ?
Alors, reste dans cette poubelle des emballages qui ne peuvent pas être recyclés. Certains plastiques, le polystyrène, qu'est-ce qu'on peut dire encore, Jean-Pierre, que, lorsqu'on ne trie plus, qui reste...
Ouais, c'est des emballages complexes aussi qui ne sont pas recyclables.
Oui, c'est ça.
Parce que je remarque, c'est que ce sont quand même plus ou moins des déchets secs, mais aussi un petit peu des déchets subis, c'est-à-dire c'est des déchets... qui ont été achetés avec l'objet dont on souhaitait se porter acquéreur.
Oui, c'est tout à fait ça. Hein. Oui, oui. Et que, effectivement, on pourrait retourner au magasin, en quelque sorte.
Est-ce qu'il y a possibilité, en achetant autrement, de réduire cette part-là ?
Bien sûr, c'est ça l'important. On peut énormément réduire nos déchets. C'est une pratique d'achat qu'il va falloir qu'on fasse évoluer. Il y a une prise de conscience de ça qui naît. Désormais, on commence à se dire qu'il ne va pas falloir qu'on mène des actions pour laisser une partie des emballages dans les centres d'achat. Hein. Voilà. Donc, en tout cas, la population essaie de réduire au maximum. Hein. C'est nouveau dans la démarche.
Dans leur mode de consommation, ils essaient de privilégier les produits où il y a le moins d'emballages ou des emballages recyclables plutôt que ceux qui vont en ordure résiduelle.
On en trouve facilement ?
Oui, on peut choisir. Souvent, il y a un choix. Après, il y a aussi le prix qui peut déterminer.
Vous étiez ce matin à Saint-Philbert-de-Bouëne, vous êtes là à Montaigu. Ce sont les deux seuls cantons qui sont à la pesée embarquée. Et pourquoi un système qui a fait ses preuves, les chiffres sont édifiants, pourquoi il n'est pas copié ?
Ben, vous posez la question, vous avez peut-être une réponse ?
Oui, eh bien, si ce n'est pas copié, c'est parce que justement, d'ailleurs on l'a bien vu en 2003, sous le bon exemple de Saint-Philbert-de-Bouëne, toutes les semaines, il y avait 2 à 3 plateformes communales de sollicités. Et là, ils ont dit, où on va là? C'est une catastrophe, parce que quand même, le fermenticide, c'est 1/3 de nos déchets, mais c'est la moitié du poids. Et comme ça se paie au poids, ça faisait la moitié de leur profit qui s'en allait en fumée. Et là, ils ont vu...
Justement, pas en fumée.
Ben, ça fait de la vapeur d'eau. Mais ça, justement, alors, ils ont remonté la réglementation. Ils nous ont fait passer soi-disant dans la rubrique 2170 et que les plateformes de compostage, c'était pathogène et que s'il arrivait quelque chose, ce serait vous, monsieur le maire, qui serait le responsable de tous ces problèmes. Et donc, ils ont arrêté à stop. Et il ne s'est fait au plus aucune plateforme de compostage après.
Beaucoup de malades à Saint-Philbert-de-Bouëne et Montaigu?
Comme vous avez pu voir, les maisons sont à 10 mètres et il n'y a jamais eu le moindre problème depuis 4 ans que ça fonctionne.
Jean-Pierre Morisseau, vous vous êtes chargé de l'animation du site de compostage.
Il y a tout un groupe de bénévoles qui est présent et qui organise les distributions de compost, par exemple, qui font des permanences chaque samedi pour accompagner le maître composteur.
C'est assez prenant quand même, non? S'il faut assurer des permanences tous les samedis.
Pas vraiment, puisque nous sommes plus de 40. Donc, de par le nombre, vous voyez, donc ça fait une permanence, un peu plus d'une permanence par an. Donc, c'est
ça va
plus
encore.
Une distribution de compost. Donc, c'est supportable pour les personnes. On ne souhaite pas d'ailleurs leur demander plus, parce que là, on aurait des difficultés. Et c'est ce qui fait que peut-être qu'elles poursuivent 4 ans après, qu'elles sont toujours présentes, puisque c'est une activité qui. Donc, il y a la convivialité qui les intéresse. Et puis, bah, c'est supportable.
Et l'animation, c'est simplement la fédération et le lien avec ces relais de quartier? Ou bien est-ce que c'est, par exemple, vous aussi qui avez planté les potirons, des fleurs?
Alors, les animations, oui, effectivement, il y a les animations au niveau des distributions de compost, où on fait des communications sur le tri sélectif. Et puis, on mène là depuis 2 ans aussi un travail de sensibilisation au niveau du jardinage, de meilleures pratiques. Des pratiques pour un jardin nature.
Je te dis, on se rapproche de la nature de plus en plus pour éviter tout ce qui est chimique, tout ce qui est bon.
Mais pourquoi?
Et oh, vous êtes au courant, non? Avec tous les produits chimiques qui ont été mis, je me souviens quand on a mis les premiers systémiques dans la vigne, quand le vent te ramenait toutes les vapeurs, le soir, t'avais un sacré mal à la poitrine. T'avais la figure qui te brûlait. Bon, ça veut dire quoi?
Moi, j'avais toujours mal à la tête. Après une journée de traitement, le soir, toujours un mal de crâne pas possible.
Joseph Bretin, en 62, qui est sorti le Métasystémox, il avait traité des chourèbes qui avaient des poux avec, à la main. Bon, se trouvait-il écorché? Eh bien, il a été malade comme un chien. Il a été obligé de lui donner des antibiotiques. Il avait les mains toutes gonflées, il ne pouvait pas s'en servir. Tu vois.
Et cette personne est morte?
Ben, il est mort, oui. Il est mort de cancer. Oui. Et puis, bon, on n'en finirait pas. Hein. On n'en finirait pas. C'est comme ça. Et quand on voit les produits qu'on sort là, sans rien.
C'est-à-dire?
Quand tu vois les kiwis par exemple là.
Ah oui. Que hier, maintenant, on peut produire des légumes, des fruits, sans traiter.
Je les ai cueillis hier. Mais on a été époustouflés. 100 grammes de moyenne.
Chaque kiwi.
Et sur 2 pieds, on a fait 40 kilos.
D'accord.
Sur deux pieds de femelles, quoi.
Et donc, c'est des découvertes nouvelles. On s'est habitué à traiter. On ne pensait pas qu'on pouvait...
Le kiwi, tu n'as aucun traitement. Je mets juste du guano au pied, c'est tout.
C'est tout. Donc, on peut faire autrement. On nous a embarqués dans une sacrée galère. On a suivi et on a subi des conséquences.
Sur un d'ortie, là, oui. J'en ai toujours 50 litres d'avance. Hein. Et les pucerons, les chenilles, eh ben, 2 heures après, tu les vois tortiller. Ça veut dire quelque chose. Et autrefois, quand tu plantais des salades, des choux, des légumes, tu mettais de l'insecticide au pied. Cette année, j'en ai pas mis. Une gorgée de un bon verre de purin d'ortie terminé. J'ai pas eu d'emmerde.
On a engagé cette démarche avec une association spécialisée pour nous aider dans les pratiques de jardinage sans pesticides. Alors, il faudra y aller par étapes. Cette démarche, nous l'avons aussi sur la commune, pour les espaces communaux. Nous commençons à avoir des zones test sans pesticides et on va s'engager dans cette voie.
Et d'ailleurs, vous faites aussi un travail de communication puisqu'elles sont marquées d'un petit panneau spécial. C'est-à-dire qu'on sait en effet que devant la mairie, c'est sans pesticides.
C'est vrai que vous avez l'œil, effectivement, nous avons plusieurs zones comme ça, et on a voulu aussi prendre la zone symbolique de la mairie, sans pesticides. Alors c'est une démarche parce qu'il faut impliquer la population, au début les gens sont habitués à avoir des zones propres, trop propres, parce que c'est pas...
Qu'est-ce que vous appelez propre ?
Propre, voilà, c'est ça, c'est ce que les gens souhaitent, mais en fait, quelques herbes, on dit des mauvaises herbes, mais même des herbes non désirables, elles fleurissent, elles peuvent être belles, on peut les accepter, mais c'est toute une culture qu'il faut qu'on évolue, et on s'engage pleinement dans cette démarche.
Vous avez vraiment des remarques, des réflexions, des protestations sur les herbes folles qui pourraient advenir ?
Voilà, donc comme nous avons démarré récemment, on n'a encore pas trop de critiques, mais effectivement, elles arrivent, les agents communaux, mais vous ne faites pas complètement votre travail, on voit des mauvaises herbes qui sont là, etc. Donc on fait de l'information, on va communiquer beaucoup avec notre bulletin municipal, on va faire des panneaux comme ça, etc. On va essayer d'impliquer la population dans cette démarche globale, qui est complémentaire au compost. Voilà, c'est un prolongement, on intègre ça dans la même philosophie, quoi, hein.
Et donc, c'est complémentaire de quelle manière ? Parce qu'en fait, quand je vous ai posé la question de la qualité du compost tout à l'heure, je pensais que vous alliez me dire c'est un compost sans pesticides. Ce n'est pas le cas, en fait, pour l'instant.
Alors voilà, nous n'avons pas encore eu ce résultat. Il est inscrit dans la démarche, justement, d'avoir une pratique où on puisse témoigner que notre compost qui est repris soit indemne de toutes ces molécules, quoi. Donc il est de qualité par rapport aux métaux lourds, par rapport à des pathogènes. Voilà, il est riche en fertilisants. Hein, au sol, il apporte de la matière organique. Voilà. On rentre dans les normes, mais les normes, les analyses de molécules, nous ne les faisons pas encore. On espère bien avancer dans ce domaine. Elles sont assez coûteuses, mais il va falloir qu'on avance. C'est une démarche globale que l'on veut, qui se développe. Alors nous regrettons que dans le département, il y ait un frein à cette démarche. Nous avons obtenu un très grand intérêt par les élus, les associations pendant quelques années. Et puis, lorsqu'il a fallu mettre en œuvre un nouveau plan départemental, l'influence des grands groupes industriels a été très influente pour démonter notre logique sans être venu le voir. Ils l'ont complètement dénaturé sur les normes, sur la qualité de notre produit, qu'on n'avait pas le droit de le distribuer. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore, Jean-Pierre ?
Mais auprès de qui est-ce que...
Auprès des assemblées d'élus qui devaient prendre décision pour le nouveau plan départemental.
Ce qui est frappant, Clément Sauvager, c'est de voir que finalement, chaque pas, on appelle un autre. C'est-à-dire que vous êtes parti du refus d'un centre d'enfouissement technique et que finalement, ça constitue une démarche qui ne s'arrête pas, mais qui, au contraire, avance toujours et se déploie.
C'est vrai que ça nous permet des avancées. On n'avait pas imaginé au départ, on voulait traiter une partie de nos déchets localement. C'était une démarche qu'on pouvait engager avec nos moyens locaux. On n'a pas besoin de gros équipements. C'est simplement un tas de compost qu'il faut faire évoluer pour qu'il devienne un produit noble. Mais c'est vrai que par la suite, on se rend compte qu'on peut prolonger cette démarche dans la pratique de nos jardins en particulier, plutôt que d'utiliser des pesticides qui, ce sont des molécules qui peuvent revenir dans le compost. On peut donc travailler d'une façon plus saine, plus naturelle, et on engage cette démarche avec la population pour qu'on ait d'autres pratiques qui auront des conséquences sur la santé. Donc c'est toute une démarche de pratique de jardinage, nature, et puis en fait on redécouvre ce que faisaient nos pères, tout simplement, qu'on a un peu perdu.
Il y a aussi le recyclage.
Alors, il y a aussi le recyclage de tous nos déchets qui permet... ce recyclage, de revaloriser des produits qu'on n'avait pas l'habitude. Et dans le cas de notre secteur, c'est vrai que les encombrants et le tout venant dans les déchetteries étaient insupportables, c'était un point noir. Et ça nous a amené à avoir une démarche nouvelle d'un nouveau concept de recyclerie que nous sommes allés voir dans le nord de la France, vers Beauvais, et on s'en est inspiré pour mettre en œuvre au niveau de la collectivité, c'est la collectivité qui va investir, une recyclerie qui va permettre et la réinsertion sociale et le recyclage et de nos produits, et même à travers un magasin, permettre à des gens qui n'ont pas forcément de moyens suffisants de pouvoir avoir accès à des produits qui seraient parfois jetés. Également, dans notre démarche, tout se lie un peu. On s'intéresse un peu dans tous les domaines au niveau de notre environnement et en particulier le problème de notre paysage. On a cassé un peu notre paysage à travers le remembrement. On a fait des excès et aujourd'hui, la nature, les haies, la forestation, il faut qu'on y revienne, qu'on revalorise notre bois, mais aussi qu'on le mette en valeur, qu'on le recrée. Et là, nous menons des opérations de plantation. Nous avons fait ça depuis quelques années.
Opérations de plantation collective.
C'est ça. Ce sont des opérations de plantation collective. Et cette année, nous allons à nouveau renouveler une de ces plantations. Nous allons planter entre 7 et 8 km. La dernière fois que nous avons planté 10 km de haies. Il y avait 250 personnes de la population ce jour-là à planter. Et ça s'est terminé par une partie festive, un petit repas entre tous. Voilà, on implique aussi la population à notre paysage.
Nous continuerons la semaine prochaine sur notre lancée en Alsace avec Dany Dittmann, le maire de Mansbach et l'auteur de Les déchets, jardin des impostures. Vous savez que vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine sur notre site franceculture.com. Vous pouvez également y retrouver notre revue de web hebdomadaire, consulter les émissions des deux mois précédents. Vous pouvez également nous téléphoner à partir de lundi au 01 56 40 36 72. Et vous pouvez aussi nous écrire à Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16.